prédication sur Jean 13 à 17. Donc le discours, la soirée avant la mort de notre Seigneur. Et donc nous arrivons ce matin à sa prière sacerdotale. La prière du Seigneur quelques heures seulement avant d'être arrêté. Et vous voyez que j'ai mis quatre sections, une section de caractère gras, où Jésus prie pour lui-même. Deuxièmement, caractère normal, où Jésus va prier pour ses disciples vivants à l'époque. Les caractères roses, Jésus prie pour les disciples futurs, c'est-à-dire nous. Et la dernière partie où Jésus prie pour tous les disciples présents et futurs. D'accord ? Et nous allons essayer de prendre la mesure de cette prière magnifique, incomparable, vraiment. Il n'y a aucune prière, même dans la Bible, qui s'approche de cette prière. Et nous allons aussi penser, en m'écoutant, est-ce que quelqu'un d'autre dans l'histoire humaine aurait pu parler au Créateur comme fait Jésus-Christ? Et vous allez voir que c'est complètement impossible que vous et moi, on parle comme cela en parlant à Dieu. Donc, je lis. Jésus prie pour lui-même d'abord. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, parce qu'ils sont dehors, dans la vallée du Kidron, probablement. Rappelez-vous, dans le chapitre 15, ils quittent la chambre haute, où ils ont fait la Pâque ensemble. Et donc, ils sont dehors, ils se dirigent vers le jardin de Gethsémané. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, toute humanité, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Maintenant, Jésus va prier pour ses disciples immédiats. Et d'abord, il dit au Père ce qu'il a accompli pour eux, la position à laquelle il les a amenés. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » On continuait cette prière pour les disciples, Jésus explique qui c'est, pour qui il prie. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. » Enfin, il parle par anticipation que dans quelques heures il va mourir. « Eux sont dans le monde et moi je vais vers toi, à toi. » Il prie pour leur préservation dans la foi. « Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, c'est-à-dire Judas Iscariote, afin que l'écriture soit accomplie. » Parce qu'il n'était pas un vrai croyant. « Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Il prie pour leur protection et leur sanctification. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Ils parlent de leur mission d'évangélisation. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux. C'est une façon de parler de sa mort sur la croix. Je me sanctifie. On va expliquer ça dans les semaines à venir. Je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Et maintenant, il prie pour les croyants futurs. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Phrase extraordinaire. Et enfin, Jésus prie pour tous les croyants et pour leur salut final. Père, je veux que là où je suis, il parle du fait qu'il va aller auprès du Père, et il parle donc de la présence glorieuse de Dieu. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Quelle glorieuse prière, et il nous faudra quelques semaines pour essayer de mijoter, de contempler, de nous incliner devant cette prière du Seigneur pour la comprendre et ce qu'elle signifie pour nous. Nous allons chanter donc, avant de passer au message, un chant d'aspiration dans un esprit de prière. On va prier en chantant. C'est dans le carnet numéro 24. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. 24.
Cherche mon âme à te trouver, se bornent mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Longtemps j'errais dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherches en cette nuit profonde, et pour toujours m'entiras par la foi. De ton amour, la voix se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté. et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est pour nous, ô Dieu, ta charité. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère, je compte au Dieu sur ta fidélité.
Reprenez, si vous voulez, le texte de Jean chapitre 17. Et ce matin, notre but est simplement d'avoir une sorte de survol. Il est impossible que nous plongions dans les détails de tout ce passage dans une prédication. Mais je crois qu'il nous convient de voir la forêt avant de regarder les arbres. Et ce que je propose de faire, c'est de regarder simplement la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ telle que cette gloire se manifeste et s'exprime dans cette prière. Et à la fin de votre feuille, vous avez les points que nous allons parcourir. La gloire de Jésus dans sa manière de prier, la gloire de Jésus, pardon, il y a une faute de frappe là, dans la cible de sa prière, la gloire de Jésus dans le but de sa prière, la gloire de Jésus dans le compte-rendu qu'il donne au Père de son travail, la gloire de Jésus dans les requêtes qu'il présente au Père, et la gloire de Dieu dans les grands fils conducteurs de sa prière. Donc évidemment, nous ne pouvons qu'aller rapidement sur cela. Ce sera un peu spécial aujourd'hui parce qu'on va beaucoup lire le texte de Jean 17 et pas beaucoup expliquer cela. Donc notre but, c'est d'avoir cette vue globale et de nous jouir de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ telle qu'elle se montre dans cette prière. Vous le savez peut-être que Jean Calvin et Martin Luther et Ulrich Zwingli n'étaient pas les seuls réformateurs protestants. Il y en avait bien d'autres, un peu peut-être plus secondaires. On pourrait mentionner plusieurs, mais John Knox, le réformateur écossais, était un de ceux-là. En fait, John Knox a passé des années auprès de Calvin à Genève avant de rentrer dans son pays d'Écosse et d'amener le protestantisme et un bouleversement parce que l'Écosse est passée d'un pays catholique à un pays quasiment complètement protestant dans une ou deux générations. John Knox était un grand bonhomme. Mais on nous dit que sur son lit de mort, John Knox a demandé que Jean chapitre 17 lui soit lu tous les jours. Et il a donné ce témoignage que ces versets ont été un réconfort et une force pour lui dans ses dernières heures. Cette prière est d'une immense importance pour le chrétien parce que dans cette prière, nous avons une fenêtre qui nous est ouverte de manière sans parallèle pour voir la relation entre le Père et le Fils. Nous voyons le Fils parler au Père longuement. Et c'est extrêmement bienfaisant pour nous. Nous avons aussi une fenêtre qui nous donne à voir le cœur de Dieu lui-même pour nous. Parce que Jésus ne prie qu'au sujet de nous et notre salut. Il nous cherche, le cœur de Dieu nous cherche dans cette prière et c'est absolument magnifique. Et nous apprenons à prier nous-mêmes, parce que quand Jésus prie au sujet de notre salut, il nous montre ce dont nous avons besoin le plus en cheminant. Parce que si vous êtes chrétien, vous êtes sauvé, mais vous êtes en train d'être sauvé aussi. Les deux sont vrais. Et nous voyons comment nous pouvons prier les uns pour les autres. Donc, nous allons commencer tout simplement avec le premier point, la gloire de Jésus dans sa manière de prier à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette prière n'est pas une prière humaine typique. Personne ne peut dire des choses comme ceci. Suivez avec moi et imaginez que moi, je prie devant vous par ces paroles. Vous allez voir combien c'est ridicule et impossible. Verset 1. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire moi-même, il dit moi-même. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse et qu'il me connaisse. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Qui peut dire ça? Qui peut dire, j'ai fait tout ce que tu voulais, tout ce que tu m'as demandé, je peux te dire, devant ta face, je l'ai fait. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quelle manière de parler à Dieu! Il parle à Dieu d'égal en égal. Et à la fin de la prière, nous voyons la même chose. Par exemple, dans le verset 24, « Père, je veux, Père, je veux, égal à égal, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, afin qu'il contemple ma gloire. » Nous voyons quelque chose d'inouï, d'absolument formidable dans la manière dont Jésus parlait. Ça, c'est votre Sauveur qui parle ainsi. Deuxième point, la gloire de Jésus dans la cible de sa prière, et là, je veux dire par cible les personnes pour qui il prie. Nous regardons les versets 9 à 11. Peut-être il serait bien de lire le verset 2 d'abord. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Le verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Vous savez, chers amis, la Bible parle d'une élection divine. Que personne ne mérite le salut. Personne ne veut le salut tel que nous sommes si Dieu n'intervient pas dans notre vie. Quand l'évangile nous vient, nous disons « Non, merci ». Qu'est-ce qui explique que certains viennent à Jésus et pas d'autres? La Bible dit que c'est Dieu. Que Dieu, depuis avant la fondation du monde, a élu par pure grâce un peuple qu'on ne peut pas compter. Un peuple vaste et nombreux. Mais c'est une sélection des hommes et des femmes aussi coupables que les autres. Tout le monde va avoir soit la justice, ce qui signifie la condamnation, ou la grâce, ce qui signifie le salut. Mais personne n'aura l'injustice de la part de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus dit, il y a ce que tu m'as donné. Et nous lisons dans le verset 9 à 11 la cible de la prière de Jésus. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Nous voyons donc dans la gloire de Jésus, dans la cible de sa prière, parce que le Seigneur montre sa grande souveraineté, n'est-ce pas? Nous voudrions être souverains. Nous voudrions que ce soit nous qui détermine qui est sauvé, n'est-ce pas? Mais nous devons nous plier devant Dieu. Maintenant, attention les amis, si vous n'êtes pas familier avec la doctrine de l'élection, la doctrine de l'élection n'exclut personne. Si quelqu'un veut venir à Jésus, L'évangile est pour tous. Le Seigneur invite tous. Et l'élection, ce n'est pas pour exclure quelqu'un, mais pour assurer que certaines viennent. Vous comprenez? Parce que personne ne viendrait si Dieu n'avait choisi un peuple et n'avait agi de manière particulière dans leur vie. C'est une grâce, c'est une merveille. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous pouvez dire que je ne peux pas me glorifier que je sois venu à Jésus, je ne suis pas meilleur qu'un autre. La Bible enseigne que c'est un choix de l'amour de Dieu. Donc, le troisième point, la gloire de Jésus dans le but de sa prière. Et là, je vais juste vous lire le verset 13. Le verset 13, Jésus dit, « Maintenant, je vais à toi. » Il dit, « Je suis en train de prier. Je viens à toi, je vais à toi. » Et il va expliquer pourquoi. « Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Quelle gloire de notre Seigneur que tout le salut, c'est simplement que la joie de Jésus-Christ qu'il nous fasse venir dans sa propre joie. Lui qui a cette relation de félicité éternelle avec le Père, il nous amène dans la même relation avec le Père. Une joie parfaite d'être aimé pour toujours. Mais le salut, c'est sa joie. Quel glorieux sauveur. Ensuite, nous voyons la gloire de Jésus dans le compte rendu qu'il donne au Père de son travail. Vous savez que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et verset 1, l'auteur de cet épître appelle Jésus l'apôtre et le grand sacrificateur de notre foi. Il lui donne ces deux titres. Le mot apôtre signifie tout simplement celui qui est envoyé. Jésus est envoyé en mission pour accomplir quelque chose. Et Jésus est un sacrificateur. Après avoir accompli cette chose, il a une autre tâche qui est d'intercéder auprès du Père pour nous. Maintenant, quand vous êtes envoyé en mission, et quand vous avez accompli la mission, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, si vous travaillez dans une entreprise, vous savez que vous devez rentrer, rendre compte de ce que vous avez fait. Et voilà ce que Jésus fait. Il donne ce compte rendu au Père que nous voyons résumé dans le verset 4. Regardez le verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Mais regardez comment Jésus explique les facettes. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous? D'abord, le verset 8. Alors, je vais juste prendre des bribes de ces versets, si vous voulez. Verset 8. Il nous a donné les paroles de Dieu. « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Verset 14. « Je leur ai donné ta parole. » Deuxièmement, Jésus a achevé l'œuvre de révéler le caractère de Dieu à nous. Nous savons qui est Dieu. Nous savons qu'il est un Dieu d'amour et de grâce et de sainteté et de sagesse. Et nous le savons surtout par Jésus-Christ. Regardez le verset 6. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Et le verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom. » Et je le leur ferai connaître. Alors, le nom de Dieu, c'est son caractère révélé. D'accord? Et Jésus dit, je l'ai accompli. Les hommes, en me voyant, t'ont vu et ont compris que tu n'es pas là du tout. Que tu n'es pas le Dieu de telle ou telle foi humaine et fausse. Mais ils ont vu en moi qui tu es véritablement. Quelle gloire du Seigneur de pouvoir faire cela. Ensuite, il dit qu'il a gardé ses disciples immédiats dans la foi et dans le Seigneur. Verset 12. « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés. » et aucun d'eux ne s'est perdu. Et ensuite, il a donné la gloire que le Père lui a donnée, il a donné à ses disciples, verset 22. Et moi, tout cela, c'est un compte-rendu. C'est pas des requêtes, c'est pas des supplications, c'est pas des demandes, c'est juste des affirmations. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Verset 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Nous aurons à expliquer ce que ça veut dire dans les semaines à venir, cette gloire qu'il nous a donnée. Et pour le moment, on voit tout simplement son compte-rendu. Et ensuite, il dit qu'il a encore deux choses qu'il va accomplir. Il donne le compte-rendu par anticipation. Il dit qu'il va nous sanctifier. Ça veut dire qu'il va nous enlever d'une vie mondaine sans Dieu et il va nous faire vivre pour Dieu. Une personne sanctifiée, mise à part pour Dieu. Donc nous voyons dans le verset 19. « Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » Et la dernière chose du compte-rendu, c'est qu'il va sans faillir nous donner la vie éternelle. Versets 1 et 2. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Nous voyons donc dans cette manière de parler où Jésus dit « J'ai révélé le nom, le caractère de Dieu aux hommes. Je les ai gardés du malin. Je leur ai donné les paroles mêmes de Dieu. » Et en disant tout cela au Père, nous voyons la gloire du Fils qui est l'apôtre parfait, envoyé en mission. Il a accompli notre salut. Gloire à son nom. Mais maintenant, il y a l'autre partie, l'apôtre de notre foi, mais le grand sacrificateur de notre foi. Un sacrificateur, c'est quoi? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est médiateur. Il est entre Dieu et les hommes. Et maintenant, ayant été envoyé de Dieu pour les hommes, il a accompli quelque chose. Maintenant, il se tourne pour les hommes vers Dieu. Et il parle pour nous à Dieu. Et dans ces requêtes, nous voyons tout ce que le salut signifie. Parce qu'il demande tout simplement au Seigneur toutes les facettes essentielles afin que vous et moi nous soyons pardonnés, changés, transformés, amenés véritablement à aimer Dieu, à appartenir à Dieu et puis à arriver chez Dieu. Il le demande. Il le demande instamment au Père en ce moment. Et il faut que vous sachiez que dans ces requêtes, nous voyons une chose intéressante au sujet de la prière. La prière, en fait, l'acte de la prière et le contenu de la prière sont un aspect du salut. Un aspect du salut. Jésus, quand il prie pour nous, il est en train d'accomplir notre salut. Seigneur, fais ceci, sauve-leur de cette manière, de cette manière, de cette manière. Et quand vous priez, c'est que par son amour, Dieu vous a amené dans le salut, il vous amène à prier, et quand vous priez, c'est que Dieu vous amène dans ce processus de salut. Et vous êtes en train de demander au Seigneur des choses qui appartiennent à votre délivrance, n'est-ce pas? Vous êtes en train de participer, pas à l'accomplissement de votre salut, mais vous êtes en train de valoriser ce salut en demandant que le Seigneur travaille en vous. Il est très important pour le chrétien de comprendre que la prière fait partie de l'œuvre du salut. On dira peut-être plus dans les semaines à venir. Mais je vais juste regarder les requêtes de Jésus, les requêtes majeures. On va relire certains de ces versets et puis on abordera le dernier point. Ça va? Regardez ces requêtes en pensant, c'est ça le salut, tout ce qu'il demande. Les requêtes, ok. D'abord le verset 11. Jésus demande que le Père maintenant nous préserve en son nom, c'est-à-dire nous préserve dans une connaissance de qui il est. Parce que Chers chrétiens, c'est seulement quand vous connaissez de manière expérientielle, quand vous connaissez, pas seulement dans la tête, mais vraiment dans le cœur, qui est Dieu, de manière à ce que votre cœur soit attiré vers lui. Je suis attiré vers Dieu parce que je sais qui il est. C'est comme ça que vous êtes gardé dans la foi. Okay? Donc regardez le verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. » C'est-à-dire dans cette révélation de qui tu es, ton caractère que tu m'as donné. Deuxième requête, que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Verset 11, la dernière partie. « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un. » Comme nous. Et ça, les amis, c'est un grand sujet. Nous l'aborderons quand nous allons examiner les détails. Mais l'unité chrétienne n'est pas une chose simplement humaniste. C'est quelque chose qui est très, très lié à ce que c'est que d'être aimé. Lorsqu'on s'aime, qu'est-ce qui arrive? On n'est plus unifié. Et c'est chacun pour soi. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a l'amour? Quand il y a l'amour, on devient l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Donc l'unité est une expression du fait d'être amené, ramené dans la faveur, l'amour de Dieu et l'amour les uns pour les autres. Mais vous pouvez le voir aussi dans le verset 20 à 23. Jésus reprend cette prière pour l'unité. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. » Ensuite, la joie. Le salut est aussi une affaire de joie. Verset 13, comme nous l'avons lu, « Maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Alors c'est ça le salut. Parce que vous êtes tellement pardonné, vous êtes tellement justifié, regardé comme juste par le sang de Jésus-Christ, que vous avez une joie parfaite. Aucun nuage entre le Créateur Saint et vous, l'humain pécheur. La joie parfaite. Parce que la faveur est parfaite. Ensuite, que le Père nous garde du malin, du diable. Regardez le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Et chers amis, aucune de ces prières ne tombera à l'eau. Jésus sera exaucé pour chacune de ces requêtes parfaitement, même si le malin peut vous tenter et il ne peut pas vous enlever. Parce que Jésus l'a prié. Ensuite, que le Père nous sanctifie dans la vérité. Verset 17. Sanctifiez-les par la vérité, c'est-à-dire transforme-les à mon image. Ta parole est vérité. Et enfin, que le Père nous amène un jour auprès de lui dans la présence de sa gloire et la gloire de Jésus. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, « Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Quel cœur le Seigneur a pour nous, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée. Eh bien, voilà les requêtes de Jésus qui vient au Père en notre faveur. Maintenant, nous finissons en regardant juste quelques fils conducteurs qui traverse la prière. Parce que c'est, quand on veut comprendre une conversation, c'est une bonne idée parfois de regarder les grandes idées. Et souvent, on les retrouve au début, après les formalités, et à la fin. Et c'est ainsi. D'abord, Jésus commence en parlant de sa gloire. Verset 1. « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et dans le verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as envoyé soit aussi avec moi afin qu'il contemple ma gloire. Père, glorifie-moi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût et aussi amène les tiens dans cette gloire, de voir cette gloire. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est notre salut. C'est là où nous allons. Deuxièmement, la vie éternelle. Verset 3, ou même la fin de verset 2, « Afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et à la fin, nous retrouvons cette même idée dans le verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce verset. Mais en tout cas, ce que nous voyons, et je termine par là, c'est que dans toutes ces prières, Jésus est constamment en train de parler de ce que le Père lui a donné. Tu m'as donné ce qui était à toi, tu m'as donné tes paroles, j'ai donné ces paroles au tien, tu m'as donné la gloire, je vais donner cette gloire au tien, tu m'as donné... Donc le salut, nous voyons, c'est le Père qui donne au Fils afin que le Fils nous donne. Et dans tout cela, nous sommes amenés. Nous sommes amenés dans quelque chose qui commence avant que le monde soit. Quelque chose qui concerne la gloire du Dieu vivant. Et ce Dieu est devenu notre intercesseur. Il est incomparable. Et il prie pour notre salut. Et même aujourd'hui, alors que je vous parle, Jésus-Christ intercède pour tous les croyants, pour vous. Hébreux chapitre 7 et 9 nous disent que Jésus vit pour intercéder pour nous. C'est une pensée vraiment absolument splendide, je pense. Que le Fils de Dieu est tourné vers la terre. Il est tourné vers vous. Il intercède. Son souci, c'est le même souci qu'ici. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a votre bien éternel à cœur, qu'il soit loué. Nous allons chanter ensemble. Dans le carnet noir, le numéro 72, Jésus, à toi la gloire. Nicky va jouer une fois la mélodie.